Donc pour faire suite par exemple à ce que je vous disais pour ceux qui étaient là à la conférence d'avant, bon, bonjour à ceux que je n'ai pas vus, merci d'être venus. La fumée par exemple que vous voyez qui sort du vaisseau là, lorsqu'il s'élève, ça c'est de la fumée qui a été rendue avec le fameux screencast, quoi. Donc ça vous permet très rapidement de sortir un truc comme ça sans avoir... 5 heures, je suis gentil, 5 jours de calcul sous Cycles, si vous le sortez sous Cycles. Voilà, sachant que là, pour sortir les 100 images, ça m'a pris à peu près 1 minute et demie, quoi. Donc, ça peut faire gagner fortement du temps. Donc, je vais vous parler maintenant de Natron ou de Natron, ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous vous trouvez. Natron est un logiciel de compositing dit nodal, c'est-à-dire que ça marche avec des sortes de petites boîtes, comme ça, d'accord. C'est-à-dire qu'un node, donc un nœud dans un logiciel de compositing nodal, c'est une boîte noire, une image rentre dedans, il se passe un truc, et puis l'image sort de l'autre côté, d'accord. Donc ça peut être un flou qui se passe dedans, ça peut être un mélange de deux images quand on a deux entrées, ça peut être une correction colorimétrique si on veut que l'image soit un peu plus rouge ou ce genre de choses. Et même si Blender en fait a un module de compositing en interne, déjà c'est pas le truc qui évolue le plus vite dans Blender. Hein, ils préfèrent se focaliser sur plein d'autres trucs avant. Je pense qu'ils ont raison parce qu'il y a plein d'autres choses qu'il faut travailler. Et alors pourquoi s'intéresser à Natron ? D'abord parce qu'il y a plein de gens qui font. Alors déjà pourquoi Natron existe alors que vous pourriez très bien me dire bah ouais mais il y a Blender qui le fait, pourquoi on se casserait la tête. Tout d'abord parce que Blender c'est aussi un logiciel de 3D et il y a beaucoup de gens qui font du compositing sans faire de la 3D déjà. Pas en France parce qu'on nous demande de tout faire, hein, c'est bien connu, pour pas cher. Si vous allez dans d'autres pays, ne serait-ce qu'en Angleterre, hein, par exemple, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui font du compositing, que du compositing. Donc avoir un logiciel dédié rien que pour ça, c'est déjà. Intéressant. C'est un logiciel qui est 100% français, c'est pas mal. C'est fait en fait par un chercheur de l'INRIA qui a gagné en fait un concours l'année dernière qui s'appelle Boost Your Code et il a gagné en fait le fait d'être payé pendant un an. Non, je vais enregistrer après parce que là je comblerai pour rien en fait. Donc je vais enregistrer après. Et, mais tu fais bien de me le dire. C'est quelqu'un en fait qui a gagné un concours et qui est payé par l'INRIA depuis un an et encore pendant un an là, pour développer en fait ce type de logiciel qui fonctionne un peu dans l'esprit de Nuke, pour ceux qui connaîtraient Nuke. Ça lui ressemble très fortement d'ailleurs, mais on va s'en éloigner progressivement. Il y a des trucs dans l'interface qui vont changer. C'est développé par une seule personne, dans sa grande majorité, depuis un an et demi. Donc, il a bossé comme un malade. Alors, ça risque de planter, hein, bien évidemment. Ça va planter. Alors, il faut savoir que, pour la petite histoire, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ça, c'est la machine d'Henri. Ma machine est là, qui est morte il y a 3 heures. Donc, c'est Henri qui me prête sa machine. Et c'est la première fois que je l'utilise sous Linux, en fait. Donc, c'est bien, ça va permettre de... voir si c'est plus stable sous Linux que sous Windows. Je vous dirai dans une heure si ça a marché mieux sous Windows que sous Linux. Donc, pour faire ce petit bout d'anime que vous voyez ici, hop, vous avez un graphe en fait qui ressemble à peu près à ça, d'accord. Alors, sachez que on va avancer un peu à notre rythme. J'ai pas envie d'aller trop vite non plus. Sachez que mon but avec cette conférence, enfin le projet que j'ai préparé pour cette conférence, c'est que tout ce projet et toutes ces sources en fait vont être mis en ligne sur le site de Natron d'ici à peu près 2 ou 3 semaines. J'ai encore 2-3 trucs à corriger, de manière à ce que tout le monde puisse le télécharger avec les médias, faire joujou avec. Donc voilà, je donne tout sous licence Creative Commons. Et il y a quelques stock shots aussi que je compte utiliser, qui fait par un garçon qui s'appelle Mitch Martinez, qui est directeur de la photographie aux États-Unis, qui a filmé plein de stock shots d'explosions, de flammes, de fumée. Et je lui ai demandé si je pouvais les utiliser. Il a dit oui, il m'a fait un joli contrat de licence pour pouvoir les mettre dessus, donc vous pourrez les récupérer aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Natron un peu plus tard pour voir à quoi ça ressemble. Donc, comment se passe ? Hop. Alors, je vais juste regarder le nom de ce truc. Je l'ai appelé... Non, c'est pas celui-là. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de module, c'est que ça vient vite le bazar, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un truc où il faut ranger sa chambre, tout le temps, assez vite, d'accord. Voir, vous voyez, ranger sa chambre avec des placards. C'est-à-dire que vous mettez les trucs dans des tiroirs, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, vous ne savez plus où vous êtes. Et donc, ce que je voulais juste regarder, c'est comment j'avais appelé ce truc Smoke Reactor. Très bien. Donc, comment se passe un projet sous Neutron? Alors, je vais carrément quitter le truc. Voilà, puis je vais en redémarrer un tout neuf. Comme ça, j'aurai tout tout neuf. J'ai ici des séquences d'images qui ont donc été calculées sous Blender. Et on voit que lorsque je prends par exemple cette séquence d'images qui est ici, donc avec toutes les images qui se trouvent à l'intérieur, j'ai ici une boîte qui est en fait un reader, il va lire les images et puis ensuite les pixels sortent en fait de ce côté-là. On a ici un viewer qui est donc la fenêtre qu'on va retrouver ici. Et vous voyez, ça vous permet de directement en fait lire les images qui vont ressortir de ce truc-là. Donc, vous avez ici, vous le voyez. Oui. Ah, j'ai pas. Oui, merci. Je vais refaire. Hop. Merci de me prévenir, les amis. Merci aux gens du bug qui m'ont bien aidé aujourd'hui. Sans qui vous ne me verriez pas faire ça, parce que en 2 heures, on a reconfiguré une machine et tout. C'était formidable. Donc, les éléments que vous avez ici, donc ça, ce que je vous disais, c'est la fumée en fait qui sort directement du screencast de Blender. Donc, vous voyez que pour un truc qui calcule sans image en 1 minute et demie, ça peut faire la blague, hein, somme toute. On a donc des petites boîtes qui vont être ici. Je vais aller chercher par exemple la boîte qui va s'appeler décor. Qu'est-ce que c'est que le décor? Eh ben, c'est une autre séquence d'images qui va contenir ce genre de choses. D'accord? On peut voir ici que la boîte décor qu'on a ici est plus petite en fait que le cadre total de mon image. Comment je vais définir le cadre total de mon image? J'appuie sur S comme settings et vous avez ici un truc qui va s'appeler le output format. Et là, j'ai le 960x540, donc j'ai fait du quart de HD, enfin de la demi-HD en largeur et en hauteur, de manière à ce que la machine ne calcule pas pendant 3 heures, hein, sachant qu'on peut travailler sur un projet plus petit, et puis ensuite, à la fin, remplacer par des grosses images, et puis là, lancer les calculs qui tâchent, d'accord? On va donc ici, par exemple, avoir, vous le voyez, le reader qui lit, ben, en fait, le mouvement à l'arrière. Alors ça, c'est une autre technique qui s'appelle le camera mapping, c'est-à-dire qu'en fait, bon, j'avais la scène, mais du coup, elle est dans mon PC mort. J'ai donc modélisé avec des plans très très rapidement en fait ce qui pourrait représenter la perspective de la colline. Et ensuite, en fait, j'ai projeté un peu comme un appareil à diapositive, hein, comme ça, sur en fait la surface cette image et je la refilme avec une autre caméra, ce qui permet, vous voyez, de simuler une espèce de perspective au niveau du sol. À la base, c'est une photo, hein. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été modélisé en 3D. Donc le mouvement de caméra a été calé sur ce truc-là et en même temps sur le mouvement du vaisseau que je vais trouver ici. Voilà. Alors vous avez ici, vous voyez, un viewer et plusieurs readers. Vous avez la possibilité de connecter directement en fait ces readers dans les viewers qui va le faire apparaître ici, d'accord? Ou alors vous avez un raccourci qui vous permet en fait de connecter. Alors vous voyez que quand je connecte ici un viewer, enfin en tout cas une image au viewer, vous avez un petit 2 qui apparaît parce qu'en fait vous pouvez avoir 2 entrées. Et ces 2 entrées vous permettent par exemple de comparer. Alors là, on compare un vaisseau et puis un décor. Alors c'est pas super funky, mais si par exemple vous avez une correction colorimétrique d'un côté et puis pas de correction colorimétrique de l'autre, ça vous permet en fait de voir avant après à quoi ça ressemble. D'accord? Des fonctions aussi, par exemple, comme le minus. Alors ça, c'est vachement pratique. C'est que vous faites en fait une soustraction d'une image par rapport à une autre. Ça vous permet du coup d'apprécier les différences. Par exemple, si vous faites une soustraction d'image entre une image qui a du grain et la même qui n'a pas de grain, vous pouvez extraire juste le grain, par exemple, pour venir contrecarrer ce genre de choses. D'accord? Ça vous permet de faire des comparaisons. Donc ça, c'est si vous avez 2 entrées, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que j'ai une seule entrée de ce côté-là et je veux en fait mélanger ces 2 éléments qui sont ici. Pour ça, je vais appuyer sur la touche M pour utiliser un truc qui s'appelle le Merge. D'accord? Et qui va me permettre en fait de dire que cet élément, je le mets en background, en arrière-plan, c'est pour ça que c'est l'entrée B, et je vais superposer en fait cet élément ici. Si maintenant je viens connecter, vous le voyez, hop, mon élément qui va se trouver ici, voilà, j'ai superposé maintenant mon vaisseau au-dessus de mon mouvement. Donc, bien sûr, il faut des mouvements de caméra qui soient un peu concordants, hein? D'accord? Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, j'ai sorti toutes mes passes de ce côté-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauver. Croyez-moi, vu la journée, c'est pas du luxe. Je vais appeler ça Neutron Conf. Alors, je l'appelle 001. Pourquoi? Parce que vous avez un truc qui est vachement pratique. Alors ça, c'est l'avantage, vous voyez, d'avoir des discussions directes avec le développeur, qui est quelqu'un de très réactif. Quand vous lui reportez un bug, il corrige le bug dans la journée. Vous lui dites, tiens, ce serait bien d'avoir ça. Parfois, 2 heures après, c'est fait. Donc, il est très, très rapide et très réactif. Moi, il y a un raccourci, par exemple, dans After Effects que j'aimais bien, c'était le Ctrl-Shift-Alt-S. Alors, ça fait bosser un peu les doigts, mais... voilà, qui en fait s'appelle le Version Project. C'est-à-dire que si vous avez appelé votre projet 001, bah regardez, là-haut, je fais Ctrl-Shift-Alt-S. Si, si, croyez-moi, on s'y fait. Hop, il s'appelle 002. C'est-à-dire que du coup, vous avez une incrémentation de votre projet comme ça qui garde en même temps un historique. Il faut savoir que du coup, le projet Natron fait référence à des images externes, mais ne contiennent pas les images externes. Donc, c'est des projets qui sont tout petits. Hein, d'accord ? C'est une sorte de XML. Donc, en plus, c'est pratique. Vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte, aller directement tripatouiller des trucs dedans. Donc... voilà, ça a ce côté assez intéressant. Donc ici, je vais avoir cet élément qui va se trouver ici. Je vais avoir donc une première fusion de ces deux éléments. Alors c'est là qu'on va commencer à ranger notre chambre. Je vais lui dire par exemple que je place... Alors vous avez une espèce de magnétisation hein, entre les notes qui permettent d'avoir des éléments qui sont bien alignés. Ce n'est pas du luxe. Okay. Et vous avez par exemple ici, vous le voyez, la fumée. Le problème que vous avez avec la fumée, en fait, c'est que elle, je l'ai rendue volontairement, en fait, à deux fois la taille, en 1920-1080. Le problème que j'ai, du coup, c'est que j'ai une image qui est deux fois plus grande par rapport à la fusion que je pourrais en faire. Et j'ai une image, vous voyez, en plus de ça, qui a une couche alpha. Alors, vous voyez, je passe ici en haut de RVB à alpha. C'est-à-dire que je peux venir, en fait, mélanger cet élément ici. Ce que je vais faire, par conséquent, c'est que je vais aller chercher... Alors, j'utilise des raccourcis, mais si j'appuie sur le bouton droit, ici, en fait, je peux avoir, vous voyez, tous les nodes qui sont disponibles. Je les ai aussi directement via petits trucs qui sont ici, d'accord ? Et je vais ici aller chercher un node de transform. Et le node de transform, c'est quoi ? C'est en fait un truc qui va vous permettre, vous voyez, de manipuler votre image directement ici. Okay ? C'est un truc qui manque à Blender, ça, par exemple. C'est-à-dire le fait de pouvoir directement prendre l'image et puis la bouger. Et le node de transform, en fait, il contient, vous voyez, la rotation de l'élément, la position de l'élément et l'échelle de l'élément. Étant donné que là, j'ai un truc qui est normalement deux fois plus petit, je vais mettre une échelle à 0,5 et je vais placer du coup le centre de l'image, je vais la placer à 0,0 et donc vous voyez, j'ai recalé en fait ma fumée à la bonne taille par rapport à mon format de sortie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter un deuxième node de merge pour venir remélanger les deux éléments. Et pour ça, j'ai la possibilité en fait, de prendre cet élément-là, plutôt que de dire que je veux rappuyer sur la touche M, reconnecter. Je peux faire Ctrl-Shift et venir, vous voyez, glisser en fait, cet élément-là, de manière à avoir un node de merge qui s'est directement connecté entre les deux. Je vous disais que l'arrière-plan, c'était B et que l'avant-plan, c'était A. Si par hasard, les deux sont inversés, je peux faire un Shift-X et vous voyez le A et le B qui s'échangent. Pas faire de mots savants. Voilà. Du coup, vous voyez, ça m'a permis de venir superposer directement les éléments là-dessus. D'accord ? Si à un moment, je me rends compte que ma machine met un petit peu de temps à réagir ou ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas avec celle-là, je vais avoir la possibilité, vous voyez, de lui dire ici que je veux calculer, par exemple, un pixel sur 2 ou un pixel sur 3 ou ce genre de choses, ce qui va très fortement accélérer les calculs. Vous pouvez voir aussi, ça, en surbrillance ici, hein, que j'ai les nodes en fait qui s'éclairent, c'est-à-dire que ça vous indique en fait à quelle vitesse il a calculé l'élément. Ça, c'est pratique parce que si à un moment, ça, vous voyez tout un tas de trucs jaunes qui s'affichent très très vite et puis... Pff, un qui reste scotché pendant 3 secondes, d'accord, c'est que vous savez que c'est lui qui prend du temps. Par conséquent, vous pouvez vous focaliser dessus pour savoir si par hasard, il n'y aurait pas un moyen de l'optimiser ou un moyen peut-être de le remplacer par autre chose, puis si on ne peut pas, on ne peut pas. Hein. Ou alors peut-être de pré-calculer ce truc-là pour le mettre dedans. Parce que quand on fait des tests, en fait, on change des trucs, on en enlève, on en rajoute. Mais vous pouvez voir que du coup, ce graphe se lit en fait de haut en bas. C'est-à-dire que des éléments en fait sont sourcés, c'est-à-dire qu'on va venir les chercher, les mélanger, et le point de sortie, hein, la bouche d'égout à la fin, c'est ce truc-là. Okay. Donc en fait, que fait Natron ? Il part du bas, il fait le graphe à l'envers, il regarde toutes les dépendances, et puis après, il refait le graphe dans l'autre sens pour venir recalculer. Et en fait, il a un système dit de cache, c'est-à-dire qu'il va enregistrer sur le disque dur et dans la mémoire de l'ordinateur, donc il faut, si possible, beaucoup de mémoire. Il va garder en fait une trace des résultats, des pixels qui sont en sortie de chacun des nodes, de manière à ce que si vous en modifiez un à un moment, et ben du coup, il ne va pas recalculer la totalité de ce qui se trouve peut-être au-dessus dans le graphique. Il va recalculer ce qui est en dessous, bien sûr, parce qu'il y a des dépendances, mais tout ce qui se trouve au-dessus ne va pas être recalculé. Donc, on a une optimisation des calculs comme ça qui est faite. Et Natron est un logiciel qui essaye d'utiliser à mort tous les processeurs de votre machine. C'est-à-dire qu'il va essayer, dans tous les cas, de lancer toujours votre process à 100%. Depuis la RC1, là on en est à la RC3 de la 1.0, vous allez avoir en fait tous les process qui vont être à 100%. Le but d'Alex, hein, qui est le codeur principal, il envoie la sauce jusqu'à ce que votre machine dise... Et puis, il arrête. Voilà. Et il lance des process autant qu'il peut. Et puis, une fois qu'elle est morte, il dit « Non, bah, c'est bon, on n'en rajoute pas plus. » Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il a déjà pensé son truc pour que ce soit parallélisable. C'est-à-dire que très prochainement, dans les versions qui vont arriver, on va avoir la possibilité de dire « C'est ma machine plus d'autres machines sur le réseau qui vont calculer, qui vont envoyer. » Le système de cache est super bien pensé. Il travaille aussi… Enfin, le système de cache aussi ne va calculer que ce que vous faites. Vous voyez, par exemple, la barre verte ici qui représente ce qui est actuellement dans la mémoire. Alors, vous voyez qu'il calcule des images en avance, c'est-à-dire qu'il est en train de faire des trucs en background, là. Vous voyez, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de calculer l'image, en fait, bah, comme là, il y a 4 ou 8 pros, je ne sais plus, il calcule 8 images en parallèle, en fait. Donc, il a 8 images d'avance à chaque fois. Donc, il essaye à chaque fois de calculer au maximum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il calcule que la portion d'image que vous êtes en train de regarder. Si je suis en train de me décaler là, vous voyez, hop, là, il est en train de recalculer uniquement l'image et il génère des caches pour tout ça. Si à un moment, vous revenez, en fait, à la taille à laquelle vous étiez tout à l'heure, il va rechercher les caches qu'il a eues pour la taille que vous aviez tout à l'heure. Donc, il stocke tout un tas de bouts de mémoire, en fait, avec qu'est-ce que vous avez calculé au préalable. Il stocke sur le disque dur, il stocke dans la mémoire, il essaye de paralléliser. Voilà. Donc là, ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent pas bosser avec un gros constructeur de PC qui s'est très intéressé par ce type de processus pour pouvoir envoyer ça après dans des clusters. Et puis, pour l'utilisateur, c'est transparent, quoi. Voilà. Et... Donc, pour un mec qui a développé ça en un an, tout seul, il y a du boulot. Alors, sachez que, en fait, Natron est développé sur un système qui s'appelle l'OpenFX, c'est-à-dire qu'en fait, Natron, c'est l'hôte. C'est-à-dire, c'est lui, en fait, qui va discuter avec les effets, avec les plugins. Et ces plugins sont programmés sous un standard qui s'appelle l'OpenFX. Et l'OpenFX, en fait, c'est un standard qui est utilisé par Natron, c'est un standard qui est utilisé par Nuke, c'est un standard qui est utilisé par Resolve, par la version pro de Fusion. Ça veut dire que si à un moment, vous décidez de coder, en fait, un plugin pour Natron, il marche aussi dans Nuke, dans Fusion, dans ce genre de choses. Donc, il y a une espèce de parallélisation de votre boulot lorsque vous êtes codeur pour coder ce genre de truc, qui est vachement intéressante. Le support du scripting en Python arrive dans la version 1.1. Donc là, la 1.0 va sortir quand on lui dira qu'il n'y a plus de bugs dedans. On est à peu près une dizaine à faire du compositing à haute dose et à tester le soft. On est assez motivé parce que faut supporter les plantages assez récurrents, faire des bug reports et tout. Mais voilà, on le fait parce que Alex est un mec qui est super réactif et c'est son bébé, voilà, il est allé au SIGGRAPH il n'y a pas si longtemps à Vancouver. Plein de fois, on lui a dit, mais viens travailler chez nous dans des gros studios très prestigieux. Il a dit non. Donc voilà, c'est bien. Donc c'est pour ça que c'est un site bien bosser avec lui et à débugger, voilà, parce que déjà là, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser au soft il y a 6 mois et maintenant, il y a une évolution incroyable. Et le nombre de fonctions où lui a dit « Ah, ce serait bien !» Et lui, il a dit « Ah, ok !» Et 2 heures après, il nous envoie un mail pour dire « Bah, je l'ai fait, en fait. » Donc voilà. Des trucs tout bêtes. Alors parfois, pour ceux qui connaîtraient Nuke, mais on a des fonctions, par exemple, qu'on trouvait intéressantes. Regardez bien, si j'ai par exemple envie de faire une correction colorimétrique sur ce vaisseau ici, j'ai un truc qui s'appelle le grade, qui va me permettre de venir donc l'intercaler ici, vous voyez, entre les deux, hein, d'accord. Donc, je sors du vaisseau, je rentre dans la boîte grade, et puis je vais ensuite dans le merge. Donc, vous comprenez que c'est des boîtes qui rentrent dans des boîtes qui rentrent dans des boîtes. Et je vais ici, par exemple, jouer sur le gamma, vous voyez, pour venir éclairer, par exemple, mon vaisseau ici, pour venir régler sa luminosité en fonction du fond, ce genre de choses. Et on s'est dit, ben, dans un cas comme celui-là, c'est un peu couillon parce que on utilise le grade, mais on se tape une flopée ici, vous voyez, de paramètres auxquels on va pas toucher parce que le seul qui nous intéresse, c'est celui-là. On lui a dit, ce qui serait marrant, ce serait que, en fait, tous les paramètres qui sont pas par défaut, on les garde, mais ceux auxquels on n'a pas touché, en fait, bah, on les affiche pas. Et donc, il nous a dit, ah, j'ai rajouté un truc, et hop, voilà. Il a fait ce petit bouton-là. Ça, c'était 4 heures de taf, hein. Il l'a fait en 4 heures. Donc, il est quand même assez réactif. Et donc, vous voyez, ben, maintenant, il n'y a plus que celui-là qui apparaît, quoi. Donc, ça minimise le nombre d'infos que vous allez avoir. À chaque fois que vous double-cliquez sur un node, en fait, vous affichez ces informations ici. Et en vidant la liste ici, bah, vous en avez plus un seul. Et vous voyez, en double-cliquant, vous pouvez ajouter en fait une espèce de liste, voire verrouiller en fait la liste de manière à avoir toujours les mêmes paramètres si vous travaillez sur un truc en particulier ou ce genre de choses. Voilà. On a demandé un truc aussi qui était sympatoche ces derniers temps, c'est que si par exemple on sélectionne ces deux éléments et qu'on rajoute ce qu'on appelle, alors vous avez avec la touche Tab, un truc de recherche, un peu comme dans Blender, hein, pour ceux qui connaissent, un truc qui s'appelle un backdrop, par exemple. Alors, excusez-moi, il aurait fallu que je sélectionne avant mes deux éléments. Je vais y arriver. Voilà. Ce qui va se trouver, en fait, à l'intérieur du backdrop, ben, en fait, permet... Alors, voilà, ça fait partie des bugs qui restent. Voilà, parce que si vous approchez le backdrop, hop là, vous les emmenez. Voilà, ça fait partie des trucs où, vous voyez, mais c'est bien parce que on lui fait la liste et puis il corrige. Donc, quand vous avez ce backdrop-là, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez, par exemple, envie de dire, ben, j'ai pas envie de bousiller ce node-là, par exemple, mais j'ai envie de dire que je veux pas de la fumée, vous appuyez sur D comme Disable. Vous voyez, vous avez une croix et ça passe à travers comme s'il n'était pas là. D'accord ? Ben, si vous avez un backdrop, en fait, vous voyez, ça va vous faire un... Ah non, ça marche pas, pardon, encore. On l'a demandé, mais ça y est pas. Pardon. Excusez-moi, ça y est pas encore. J'ai un fantasme, excusez-moi. Par contre, regardez bien. Non, mais on l'a demandé, donc ça va y être. Par contre, regardez bien, si j'appuie sur CTRL et que je double-clique sur le backdrop, il me sort en fait les propriétés de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, si par exemple, vous êtes en train de travailler sur un truc comme l'incrustation sur fond vert, où vous avez l'incruste en elle-même, l'étalonnage, la retouche des bords, et que vous avez mis tout ça dans une boîte, ben, en double-cliquant, vous avez tous les paramètres qui s'affichent sur le côté, quoi. Donc, c'est un côté assez intéressant. Voilà. Donc, on va continuer. Par exemple, ici, à l'arrière-plan, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir... Alors, voilà. Alors, lui, il s'appelle backdrop ici, mais je vais l'appeler vaisseau, par exemple. Voilà. Et donc, on a le nom qui va changer ici. OK. Et ce que je voudrais, par exemple, bah, c'est que entre le vaisseau, qui va être ici, entre le vaisseau et le fond, voilà, j'ai envie de rajouter un autre truc. Ça devient vite le bazar. Voilà. J'ai envie de rajouter, en fait, une espèce de brouillard qui va me permettre de dire que, bah, par rapport au fond, vous voyez, il y a une espèce de perte de luminosité et de contraste. Pour ça, je vais avoir la possibilité, en fait, d'utiliser ici un truc qui va se trouver dans Draw, qui a été rajouté il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle le Ramp, donc pour faire des dégradés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici venir mélanger, encore une fois, voyez. Donc en background, ça va être mon décor. Et en foreground, ici, ça va être mon Ramp. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup progressivement, vous voyez, faire une sorte de dégradé comme ça. Voilà. Je vais lui dire que ben, mon ramp du bas, en fait, je vais une coloration un peu bleutée. Voilà, un truc dans le genre, alors, pas trop saturé non plus. Voilà. Voilà. Après, on peut y passer des heures pour trouver la bonne couleur. Hein. Et ici, sur mon node merge, qui me permet en fait de superposer les deux éléments, vous voyez, j'ai un mix en fait, qui me permet de dire j'en veux plus ou j'en veux moins. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien éventuellement rajouter, alors je vais le désactiver pour l'instant pour qu'on puisse bien voir. Ce que j'aimerais, c'est rajouter en fait un fond derrière ce truc-là. Donc j'ai là-dedans un truc qui va s'appeler en fait le ciel, okay, que je vais retrouver ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un merge. Je vais lui dire, OK, je mélange en fait le ciel. Je vais rajouter le ciel derrière. Donc cette fois-ci, je vais le mettre en background. Je vais regarder temporairement ce que ça donne, c'est-à-dire que je vais sélectionner cet élément, appuyer sur 1. Et en fait, vous voyez, le viewer est venu se connecter dessus. Ça permet du coup de regarder à des endroits très spécifiques ce qui se passe dans ma composition. D'accord ? Là, j'ai un viewer, mais on l'a vu tout à l'heure, je peux en avoir plusieurs. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter maintenant un transform, donc le truc que j'ai utilisé tout à l'heure. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que ce transform, je vais placer par exemple son point de pivot ici. Donc ça va me permettre de le déplacer. Voilà, comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Il est vachement grand. Vous pouvez le voir ici. Je vais le réduire un tout petit peu, mais pas trop. Pas trop. 0,8, c'est pas mal. Voilà, histoire d'avoir un peu de, marge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à la première image de l'anime. Je vais mettre une clé d'animation. Pour ça, je vais cliquer en fait ici sur ce petit truc-là, vous voyez, une espèce de courbe. Je vais dire c'est 7K All Dimension, parce que je peux lui dire que c'est que sur le X ou que sur le Y, donc horizontal ou vertical. Je vais aller mettre à la fin. Je vais le bouger un peu. Ah, j'aurais dû le bouger un peu plus à gauche au début, excusez-moi. Voilà, plus comme ça. Je vais mettre à la fin. Je vais le bouger un peu. Je vais même le rebouger encore un peu plus au début. De toute façon, j'ai de la marge, hein, il est vachement gros. Voilà. Et j'ai un truc parmi les contrôleurs, vous voyez, c'est assez intéressant la manière dont ça se passe. On va avoir un contrôleur mixte. Le milieu, c'est fait pour le bouger, en fait, en translation. La roue, c'est fait pour le tourner. donc en rotation. Alors non, pardon, excuse-moi, c'est pour l'échelle. Ça, ça va être pour le tourner. Et il y a un autre truc qui est vachement pratique, c'est le skew, c'est-à-dire que ça va me permettre, vous voyez, de le bouger un peu en trapèze comme ça. D'accord ? Et ça, ça va être particulièrement pratique dans mon cas. Pourquoi ? Parce que je vais activer ce truc-là, histoire d'avoir un pixel sur deux qui va être calculé, ça ira plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au début de l'anime, je vais tourner ce truc-là. Vous voyez, ça va en fait me déformer mon image. Je vais mettre une clé ici sur le skew Y. Je vais aller mettre à la fin de mon anime. Je vais le tourner dans l'autre sens, comme ça. Et là, on se rend compte que j'ai plus de marge, donc je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, je vais jusqu'à la limite. Il a mis automatiquement une autre clé, parce qu'à partir du moment où vous mettez une clé et puis vous changez dans le temps, il rajoute les autres clés. Et là, vous voyez, ça va me donner une espèce de perspective dans les nuages. Vous le voyez ? D'accord ? Voilà. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, peut-être, parce que le mouvement n'est pas assez costaud quand même, parce que j'ai un mouvement de caméra avec. Voilà, je vais le faire là. Et je vais le bouger comme ça. Voilà. Ah ! Jusqu'à la limite. Voilà. Vous voyez la différence ? Ok. Donc là, vous voyez, à partir d'une seule image fixe, en fait, j'ai simulé une espèce de mouvement de nuage en même temps que le mouvement de la caméra. C'est pipeau total, mais ça peut marcher. Hein. D'accord ? Ce que je peux faire du coup après, si je veux avoir un graphe un petit peu plus complexe, c'est que je peux commencer à me dire, donc, ok, j'ai un ramp qui vient devant. Ok. Il est un peu fort d'ailleurs. Maintenant que j'ai un fond avec un ciel bleu, je vais pouvoir le baisser. Hein. C'est juste pour faire une sorte de brouillard. Voilà. Comme ça. J'ai mélangé ce truc-là, j'ai rajouté la fumée par devant. Maintenant, ce que je peux faire, pour avoir là aussi une espèce de double brouillard qui passe de devant, enfin devant en fonction des nuages, regardez bien, je peux faire un embranchement à la sortie de ce truc. C'est-à-dire que je peux très bien me dire, ok, là, j'ai mélangé ces nuages avec, en fait, mon arrière-plan, mais en appuyant sur la touche contrôle, j'ai la possibilité, vous voyez, de rajouter en fait des points et de faire des bifurcations. Des bifurcations, je vais lui dire, ok, ce truc-là, par exemple, je vais en faire un flou, donc je rajoute un B comme blur. Je vais venir sourcer ce truc-là, donc cette fois-ci, l'image sort des deux côtés du point, de ce côté-là et de ce côté-là. Comme je suis un mec organisé, je vais faire le grand tour. Je vais passer comme ça. Et ce que je vais lui dire, c'est que à l'avant ici, où j'ai mis ma fumée, mon machin, mon truc comme ça, je vais rajouter un note de merge, qui va être là, d'accord. Je vais, hop, excusez-moi. Je vais inverser ce truc-là pour avoir le background d'ici, venir chercher le blur là, d'accord. Je vais ranger ma chambre. Voilà, donc vous voyez que ça fait le tour. Et je viens le remixer par devant, en fait. Si je le remixe par devant, vous voyez, ça va me donner une espèce de double, en fait, un duplicata des nuages, d'accord, qui va se retrouver devant. Le problème que je vais avoir, c'est que du coup, il bouge à la même vitesse que ce qui se trouve derrière. Moi, ce que je voudrais, c'est que comme c'est plus près, ça bouge plus vite. Pour ça, rien de plus simple, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un node de transform, c'est-à-dire un truc qui va me permettre, en fait, de... Tu vas te connecter ? Oui, voilà. Un truc, en fait, qui va me permettre de grossir l'élément. Alors là, c'est là où ça devient rigolo, c'est que vous voyez, vous avez des contrôleurs de nodes de transform de partout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous affichés dans la liste, ici. Si maintenant, vous venez purger la liste, ils disparaissent totalement. Je redouble-clique en fait là-dessus. Et cette fois-ci, il n'y a que mon transform qui m'intéresse, qui est affiché. Vous voyez ici qu'il y a un petit 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu m'en affiches 10 au maximum. Si je le passe à 1, à chaque fois que je double-clique, j'en ai qu'un, donc il vient annuler celui d'avant. Ça peut être une sécurité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce truc-là, je vais placer le pivot au centre et je vais venir grossir, vous voyez, les trucs qui vont se trouver là. Donc, c'est les duplicatas de mes nuages que j'ai grossi, dont j'ai gardé le mouvement et que je repasse devant. Et ainsi, comme ça, ça va me permettre, vous voyez, d'avoir une espèce de double brouillard qui va passer devant ici, qui va à la même vitesse que les nuages du fond, mais qui va plus vite en même temps parce que je l'ai grossi et que je recomposite par devant. C'est un peu trop fort, pas de problème. Dans ces cas-là, je viens baisser le mix du merge qui vient me les rajouter. Ça va ? Tout le monde suit le système ? Okay. Vous voyez que rapidement, faut sauver. Et ça, j'arrête pas de le faire. Depuis tout à l'heure, regarde, tu vois, il y a le numéro qui monte au fur et à mesure. OK ? Alors, vous pourriez vous dire, ouais, mais ce qui serait intéressant éventuellement, ce serait de pouvoir avoir ce mouvement des nuages qui se trouve à l'arrière en ayant un point de repère par rapport à la scène Blender. Actuellement, on ne peut pas récupérer les caméras en fait, de Blender pour les mettre dans Nitron parce que Nitron ne fait pas de 3D pour l'instant. C'est prévu pour les versions suivantes. Hein. Ils sont en train de réfléchir d'ailleurs à se demander si le moteur de rendu de Nitron pour la 3D, ça pourrait pas être Cycles. Parce que Cycles, en fait, il a changé de licence et maintenant, on peut l'intégrer sans problème dans d'autres applications tierces. Oui ?
Et du coup, la fumée que
Alors là, maintenant, c'est de la 2D. Mais tu pourrais peut-être avoir éventuellement la possibilité d'importer des caches. Après, si tu veux, c'est l'inclusion de la 3D, si tu veux, actuellement dans Natron, elle est prévue pour se dire, dans un premier temps, on va faire des plaques. Je sais, ne serait-ce que des plaques dans l'espace, pour qu'on puisse, si tu veux, avoir éventuellement faire du matte painting 3D. Là, je suis en train d'essayer de travailler, si tu veux, sur, pour la partie Blender, j'essaye de travailler sur un importeur des fichiers ORA, Open Raster. C'est-à-dire que tu ferais, en fait, des calques dans Krita. Tu prendrais ton ORA, ça deviendrait des plaques dans Blender, et du coup, a fortiori, tu pourrais peut-être récupérer ces plaques dans Blender pour les mettre dans Natron. Voilà, c'est mon but, tu vois, d'un point de vue développement, c'est ce que je voudrais faire. Donc, on va essayer d'y réfléchir après, voir comment ça fait, mais si tu veux, un logiciel comme Nuke, actuellement, son moteur de rendu, il fait surtout des plaques. Là, si par exemple, d'un seul coup, si tu veux, tu te disais, ah ouais, mais attends, ces plaques, en fait, tu vas les rendre avec Cycles dans Natron, ça veut dire que la plaque, si tu la mets en émission, elle va émettre de la lumière en même temps. Tu vois, c'est-à-dire que du coup, ton logiciel de compositing a un moteur de rendu qui fait du coup fait du pass tracing. Tu vois, et ça actuellement, j'ai jamais vu quoi. Voilà. Il y a V-Ray qui peut être intégré dans Nuke éventuellement, mais voilà, on s'approche de ce genre de choses. Mais du coup, voilà, on a fait un petit meet-up dernièrement avec Alex et dans l'ascenseur, il m'a dit ah mais j'ai vu que la licence en fait c'était pas du GPL pour Cycles. Et je lui ai dit ouais. Il a dit bah alors ouais, on peut l'inclure alors. Voilà. Pour l'instant, on en est là dans l'ascenseur. Mais voilà, ça commence à travailler dans sa tête. OK? Donc, si par exemple, j'ai envie d'avoir une espèce d'inclusion de truc 3D qui dirait ben, mon ciel, plutôt que de l'animer à la pogne, c'est pas très très compliqué, hein, vous avez vu, en réfléchissant un peu, en se disant OK, la perspective est comme ça, on arrive à le caler à peu près. Mais on pourrait très bien se dire, moi ce que j'aimerais, c'est avoir un point de repère dans ma scène Blender, et puis me dire, bah, ce point de repère, ce que je voudrais, c'est je le mets à l'infini, vachement loin, d'accord? Je le rends, c'est-à-dire que je fais juste un petit point blanc. Et du coup, bah, ça va me permettre de savoir un truc qui serait à l'infini se déplacerait par rapport à mon mouvement de caméra à cette vitesse. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai rendu un truc, en fait, qui s'appelle le ref fond. Donc, c'est aussi une séquence d'images. Donc, vous allez voir, c'est Hollywood. C'est ça. Voilà. C'est un point blanc. La grosse classe, hein. Enfin, là, je veux dire, en soirée, on frime avec ça, on emballe tout. Et donc, ce que je vais pouvoir utiliser là-dedans, c'est un tracker, donc que je vais trouver dans Transform. On a un truc qui s'appelle le tracker PM, d'accord? Qui peut en fait, à la base, faire du tracking quatre coins, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une affiche, vous traquez les quatre coins, puis vous pouvez remplacer le contenu de l'affiche. Mais en fait, le tracking quatre coins, si vous lui donnez qu'un point, ben, en fait, il va vous sortir la transformation qui sera le barycentre de un point, donc ce point en fait. Voilà. Donc ne cherchez pas le tracker un point, il n'y en a pas en fait. J'avais demandé à Alex, je lui ai dit c'est bien, il y a du corner pin, mais quand tu traques qu'un point, comment tu fais? Il fait non, mais en fait, tu peux avoir 300 points, il va te calculer le barycentre des 300 points et il va te dire il est là quoi. Voilà. Donc si à un moment vous avez plusieurs trucs qui bougent, donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dire. Je suis à 44, voilà. On va lui dire que ce point-là, c'est ça. Donc, vachement compliqué à traquer pour lui, hein, vous voyez. Du coup, il est en train de traquer le truc. Voilà. Et je vais le traquer dans l'autre sens aussi, parce que je n'ai pas traqué depuis le début. Voilà. Donc maintenant, bah, vous voyez, j'ai un truc qui suit ce point-là. Et je vais pouvoir lui dire que je veux en fait bah, exporter ces informations. Et qu'est-ce qu'il va me faire? En fait, il va me faire ici un corner pin. Un corner pin, vous voyez, qui est linké, c'est-à-dire que ce truc-là, ce n'est pas un lien. C'est un truc qui dit, je vais chercher mes informations de déplacement dans le tracker. Ça veut dire que si à un moment, vous changez le tracking, vous avez foiré votre tracking, mais que vous avez commencé à faire un truc, vous n'avez pas besoin de relier tous les bastrings. D'accord? Donc ce truc-là, comme ça prend une source, j'aurais très bien pu dire, eh ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sourcer ça. Voilà. Et puis, je vais regarder ce que ça donne, par exemple, vous voyez. Voilà. Là, il est en train de faire bouger mon plan. Le plan est décalé, pas de problème. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je rajoute un transform qui va me permettre en fait de mettre un décalage. Hop, voilà. Et là, vous voyez, ben, cette fois-ci, il bouge, non pas par des clés d'animation, mais grâce au tracker. Okay. Donc, j'aurais pu le faire comme ça aussi. Voilà. Après, le but du jeu, comme l'insertion du Python va être faite à partir de la 1.1, moi, ce qui m'intéresse fortement, c'est de faire des exporteurs en fait de Blender et des importeurs dans Natron. Parce que ici, en fait, quand vous avez un node de transform, vous avez un truc ici, vous voyez, qui s'appelle. Alors, il faut avoir une animation, mais il y a des options en fait d'exportation et d'importation, et il vous sort des fichiers texte en fait, dans lequel vous avez pour tous les points les positions x, y, x, y, x, y. Donc, c'est que dalle à coder côté Blender. Alors en 2D, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut reprojeter en fait dans l'axe de la cam un truc qui est en 3D. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y a des fonctions. Hein. J'ai codé une fonction qui le fait, puis après, j'ai découvert qu'il y avait une fonction qui le faisait tout seul. Ça, c'est bien, j'ai perdu 2 heures. Mais il y a une fonction qui fait ça en fait dans le Python de Blender, qui dit tu es en 3D là, mais dans ta vue, ça fait 2D, ça fait ce point-là. Donc j'exporte ces trucs-là, puis après, le but du jeu, c'est que dans Natron, je récupère ces infos, histoire de ne pas traquer un point blanc, même si c'est le fun. Hein, mais... Du coup, voilà, ça nous évite de faire ce genre de choses. OK ? Donc, tout ce truc-là, maintenant, ben, je vais le casser pour l'instant. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Supprime. Qu'est-ce qu'il me dit ? This node has several parameters which... OK, je vais le faire un par un, sinon il va m'engueuler. Hop, voilà. Et je vais venir reconnecter ce truc-là. OK ? Je vais... Alors là, il est en train de réfléchir. Il est mort. Ah, c'est bon, voilà. Il était en train de tout me recalculer. OK. Vous voyez, dans le genre petit bug que j'ai découvert hier soir, si vous êtes à 100%, comme ça, et que vous lancez l'anime, donc il est en train, en fait, de vous calculer. Il ralentit un peu, Pépère. Je sais pas ce qu'il a. Si vous êtes en train, en fait, de lancer une anime et que vous appuyez, en fait... Ah, il s'assombrit. C'est chouette. Ça, ouais, il y a les lampes qui vont s'éteindre dans 2 minutes. Je vais le fermer, puis je remarque quand même, alors quand même pas mal pour le coup, j'aurais fait ça sous Windows, il aurait déjà, depuis que j'ai commencé, il aurait planté 30 fois. Hein. Sous Linux, il n'a pas planté une fois. Donc ça veut dire que je crois que je ne vais pas m'amuser longtemps avec la version Windows. Je crois que je vais, enfin si, pour le debug dans ces cas-là. Mais voilà, faut quand même que... Savoir que la version Linux, du coup, est vachement plus stable que la version Windows. Okay. Vous voyez, par exemple, si vous êtes à 1 et que vous faites un rendu, vous allez avoir la barre verte, mais si vous faites le raccourci CTRL plus 1, il vous efface tout le truc alors qu'en fait, il n'a pas bougé. Donc voilà, c'est le genre de bug que j'ai reporté hier soir, par exemple, et qui est intéressant de noter. Voilà, du coup, je vais rajouter voilà, un peu plus de brouillard par devant. D'autres éléments aussi, par exemple, que j'avais en stock, comme par exemple le dust. Alors ça, c'est bah, tout simplement, pas le masque, pardon. Voilà. C'est de la poussière, en fait, vous voyez, qu'on a là-dessus, histoire de rajouter un peu de poussière devant l'axe de la caméra. Donc là, même topo, hein, je vais pouvoir lui dire que le background est ici, que le foreground est là. Je vais le rajouter par-dessus. Et puis, je vais baisser un tout petit peu ce truc-là. C'est juste histoire d'avoir une espèce de lentille un peu sale par devant. OK. D'autres trucs que j'avais fait éventuellement dans la version d'origine, donc le projet, vous avez vu tout à l'heure, était vachement plus complexe que ça, hein, mais le but, c'est que vous ayez une vue d'ensemble, et puis si après vous avez quelques questions, on va se laisser 5-6 minutes pour les questions. J'ai ici un élément qui va... Alors, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé un truc qui s'appelle le Spaceship Beauty. Alors, qu'est-ce que c'est que la passe Beauty, en fait, en 3D? C'est la passe qui contient, en fait, tous les éléments, à savoir les ombres, les réflexions, les réfractions, ce genre de choses. Mais généralement, en fait, quand on travaille en compositing, vous voyez, j'ai toutes les passes qui sont ici, et c'est ce que j'ai dans l'autre... Ah, non, c'était pas ça. Close without saving. C'est ce que j'ai, par exemple, dans ce truc-là. Voilà, donc le projet est un petit peu plus complexe. Non, j'ai pas peur. Voilà. Regardez bien, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Ici, c'est toutes les passes donc, que j'ai utilisées. Je vais essayer d'enlever ce truc-là. Voilà. Ce qu'on appelle la passe de glossy directionnelle, c'est-à-dire en fait les reflets qui viennent directement sur le vaisseau. Indirectionnel, c'est-à-dire les rebonds de lumière. On a ici le glossy color, c'est-à-dire en fait la coloration du vaisseau. Et en fait, on fait ça plus ça, ça nous donne ça. Et quand on fait ça multiplié par le résultat, on a ça. OK. Donc, ça vous permet en fait... Alors, à quoi ça sert ce truc ? Si à un moment, vous voulez, par exemple, vous dire que... donc, vous voyez, j'ai fait une espèce de groupe ici. Hein, c'est-à-dire que là, j'ai ma beauty. D'accord ? C'est histoire de ne pas avoir trop de temps de calcul pendant que je calme mes mouvements et tout. Et puis, en fait, vous voyez, j'ai fait une sorte de groupe dans lequel j'ai un truc qui s'appelle assemblage. Et ce qui rentre là-dedans, en fait, c'est la beauty. Oh, je viens de déconnecter un truc. Pardon. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, bah, en fait, maintenant que j'ai bien calé mon truc et que je veux commencer à travailler l'étalonnage, j'ai juste à faire ça. Et maintenant, bah, c'est tout ce truc-là qui va en fait permettre de rentrer l'image de mon vaisseau là-dedans. Et si je veux regarder ce que ça donne, donc regardez bien, je vais me mettre au bout là. Je vais lui dire que je veux regarder la sortie de ce truc, donc vous voyez qu'il est en train de me calculer tout. Ben, ce que je vais faire, c'est que si à un moment je veux changer la coloration de mon vaisseau, en fait, sans changer tout le reste, c'est-à-dire les réflexions, les réfractions, bref, tout ce qui rentre pas en compte dans la couleur du vaisseau, hein, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je rajoute par exemple un grade là-dedans qui va permettre de changer la colorisation uniquement que de cette passe-là qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je vais cliquer par exemple là-dessus. Et regardez bien, en faisant ça, je change en fait, voilà, je vais me mettre par exemple sur un fer neutre, voilà, un truc un peu plus punchy, allez, un fuchsia, c'est sympa, un vaisseau fuchsia, ça fait tout de suite plus viril. Voilà, donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé en fait la couleur du vaisseau, mais c'est quand même quelque chose, malgré que ce soit fuchsia, ce qui du coup n'est pas super réaliste, c'est une couleur qui reste physiquement crédible. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai changé uniquement bah, cette passe d'information de couleur, mais pas l'éclairage qui vient altérer cette couleur. Donc en faisant ça, et en mettant du coup des grades sur chacune des entrées, je vais avoir un contrôle très très fin sur est-ce que je change la couleur du vaisseau, est-ce que je change la couleur de la lumière environnementale autour de moi, est-ce que je change la couleur des réflexions qui ferait que du coup, bah, comme on a une espèce de vernis un peu bleuté sur le vaisseau, les réflexions sont plus bleutées ou ce genre de choses. Donc on a un gros gros contrôle du coup de ces éléments-là, mais pendant qu'on travaille, du coup, ça va nous obliger à recalculer tout ce genre de choses, et donc pour la dynamique de l'anime qu'on est en train de calculer, c'est pas super fastoche. C'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai une passe de beauty qui va avoir, en fait, bah, tous les éléments, donc peu de contrôle, mais qui va me permettre au moins d'avoir un rendu très rapide. D'accord ? Donc, dans la mise en place d'un projet, on a toujours cette double version, en fait, qui va dire, en fait, bah, j'ai... voilà, ici, qui va dire, j'ai une passe sur laquelle j'ai peu de contrôle, mais avec laquelle j'ai un feedback très, très rapide. Et là, ce que je vais faire, par exemple, c'est que j'ai une passe qui va se trouver ici, et c'est une passe dite de emit. Qu'est-ce que c'est que la passe de emit ? Eh ben regardez, c'est uniquement les parties qui flashouillent et qui émettent de la lumière en fait dans le vaisseau. Donc ce que je vais faire, c'est que cette passe de emit qui est là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la rajouter. Alors on peut la rajouter à différents endroits, hein, ou après le brouillard, ou avant le brouillard, selon qu'on veut qu'elle soit plus ou moins persistante ou altérée. Là du coup, je vais pas me prendre la tête, je vais la rajouter après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui dire que mon background, c'est ça, encore une fois, hein, puisque c'est là-dessus que je vais rajouter quelque chose. Voilà. Et là, en fait, vous voyez que c'est quelque chose qui est complètement noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez en fait tout un tas de modes de fusion, c'est-à-dire des opérations mathématiques qui vont permettre de dire je superpose les pixels, j'ajoute les pixels, je fais une soustraction au niveau des pixels. Et là, je vais utiliser un truc qui s'appelle le plus et qui va me permettre, vous voyez, en fait, de venir additionner les informations. Tout ce qui était noir, bah, ça vaut zéro. Donc, quelque chose plus zéro, ça fait quelque chose. Et puis, par contre, les parties qui étaient lumineuses, elles, vous voyez, on voit très légèrement quelque chose qui surbrille, mais ça ne suffit pas. Ce que je veux faire, du coup, c'est prendre, en fait, un embranchement ici, rajouter, en fait, un flou, de manière à ce que je puisse, en fait, bah, flouter ces éléments. Vous voyez ici, hein, j'ai flouté la couche alpha aussi, tant que j'y suis. Comme ça, ça débordera. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, remettre ici un merge en mode plus. Voilà. Et là, je me suis planté, j'ai connecté le masque. Voilà. Et vous voyez, maintenant, j'ai en fait des sortes de glow, c'est-à-dire mes éléments qui vont dépasser sur les côtés. Okay ? Donc avant, ça ressemblait à ça. Je l'ai rajouté une couche, puis encore une couche. Ah, excusez-moi, je l'ai désactivé. Ça va pour tout le monde ? Ok ? Donc, je vais finir là-dessus, comme ça après, s'il y a des questions pour répondre à ça, je voudrais juste vous montrer quelque chose qui est vachement intéressant et que j'utilise justement dans le projet final qui sera mis en ligne d'ici quelques semaines. on a eu des discussions, par exemple, avec Alex, et puis alors il y a un autre développeur qui s'appelle Frédéric Devernet. Alors en fait, pour vous réexpliquer un peu la manière dont ça s'est passé, à l'INRIA, il faisait beaucoup de gestion de l'image pour la vision stéréoscopique pardon, par la robotique. C'est-à-dire qu'il y a un gros, gros spécialiste là-bas qui s'appelle Frédéric Devernet qui fait de la vision robotique. Et il en avait marre parce qu'il codait des algos, mais il n'avait pas d'hôtes, en fait, donc de programmes pour les injecter dedans et tester sur des images. Là-dessus, Alex propose son projet. Et du coup, il s'est dit, ah bah, c'est très bien, en fait, tu vas venir développer Neutron chez nous. Comme ça, nous, on aura un hôte open source plutôt que d'avoir des licences de Nuke ou ce genre de choses pour tester nos algos, en fait. Donc du coup, Fred, eh bah, il code beaucoup, beaucoup de trucs là-dedans. Et donc, le noyau dur du développement, c'est Alex qui s'en occupe, mais Fred, qui est un gros, gros spécialiste de ça, va apporter des fonctions sur la stéréoscopie qui ont vont être très très avancés. Par exemple, dans Nuke, il y a un plugin qui s'appelle Ocula, qui coûte très très cher pour entre une image gauche et une image droite pour les deux yeux. Il vous fait une corrélation, il vous dit tel pixel correspond à tel pixel. Ça vous permet de faire des corrections de perspective, de faire des corrections colorimétriques entre la caméra de gauche et la caméra de droite parce qu'elle filme jamais les mêmes couleurs. D'accord. Lui, il m'a dit, oh, c'est 2 jours de boulot et je l'ai fait, quoi. Donc, ça veut dire que ça va arriver. Il bosse aussi sur un truc qui s'appelle le Natural Matting, qui est un algorithme qui permet de faire de l'extraction de personnes, non pas sur fond vert, mais sur fond quelconque. C'est-à-dire que vous faites une espèce de truc à la con, une espèce de patate, vous dites c'est lui, pof, il vous l'enlève. Vous n'avez plus le fond. Voilà. Ça marche vachement bien. J'ai vu le truc. Donc voilà. Ils sont en train de bosser sur des trucs comme ça. Et bah, il y a des fois, on a des discussions. Par exemple, je lui ai dit, il y a un truc qui est vachement marrant dans Blender. Donc par exemple, je vais relancer un Blender ici. Il y a un truc qui est vachement marrant dans Blender, c'est que vous avez en fait une gestion des profils colorimétriques. C'est-à-dire que vous avez un truc dans le color management ici qui s'appelle look. Et en fait, c'est tout un tas. Non, je le trouve. Ah, pardon. Excusez-moi, je vais relancer ma petite console là. Ça, c'est l'esprit Linux. Hein. On lance les trucs en ligne de commande. Hop là. Voilà. Donc j'ai un cube. J'ai une caméra. J'ai une caméra. Ah, attendez, c'est peut-être ça, ça, ça. Attendez, bouge pas. Non, perdu. Ok. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ça donne du noir, super. Ou alors je me recule. Ouais. Croyez-moi, vu la situation d'il y a 2 heures, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je me retrouve avec un truc comme ça. Et puis, je vais. Alors, c'est beau, hein. Laissez, je vais le faire. Donc, vous avez un truc qui s'appelle Look, et en fait, là-dedans, vous avez tout un tas de pellicules, en fait. Donc, l'Agfa Color, le machin, donc vous voyez, vous en avez toute une liste. Hein. C'est des courbes d'étalonnage, en fait, et ces courbes d'étalonnage sont issues de profils qui s'appellent OpenColor.io. C'est une certaine manière de gérer la couleur via une librairie. Et en fait, ce truc-là, bah, comme c'est des profils OpenColor.io et que Natron est basé sur l'OpenColor.io, j'envoie un mail à Fred à 10h pour lui dire, ah, tu sais, il y a un truc qui serait marrant. Ce serait qu'on puisse, en fait, avoir les profils colorimétriques de Blender dans Natron, quoi. Ah, il me dit. Et 5 heures plus tard, je reçois ça, un truc qui s'appelle le Look Transform. Donc, je le mets là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Les péloches. Ouais. Donc, je fais ça. Et puis, avec la flèche du bas, en fait, je peux changer de look. Mais il a été encore plus loin. Il a fait un truc qui s'appelle... Alors, vous décochez le Single Look. Là, vous avez un truc qui s'appelle Happen Look to Combinaison. Et du coup, vous pouvez faire des combinaisons de pellicules comme ça. Vous voyez? Donc du coup, vous pouvez dire, ouais, c'est un peu de l'Agfa, puis un peu du Fuji, puis voilà. Donc vous voyez, ça vous permet d'avoir directement un look qui est fait comme ça. Et la machine ne bouge plus. Elle est morte. La souris ne bouge plus. Ah, il n'y a plus rien qui bouge. Ouais, vous êtes... Oh, Natron a peut-être planté... Même pas. Non, il réfléchit. Ouais, je l'arrête. Voilà, c'est bon. Et il n'a pas planté une fois en 1 heure, croyez-moi, ça tient du miracle pour m'en servir sous Windows. Enfin, sous Linux, c'est peut-être normal, sous Windows, ça tient du miracle. Donc c'est bien, je pourrais dire à Fred, écoute, et à Alex, j'ai fait une démo non-stop. Oui? Il fait un rendu à chaque fois qu'il modifie un truc? Il fait un rendu de ce qui doit être modifié. Étant donné qu'il a un système de cache qui garde un historique de tout ce qui s'est passé dans tous les nœuds, s'il se rend compte qu'il n'a pas... En fait, si tu veux, dans la façon dont marche le protocole OpenFX, l'hôte, en fait, si tu as les plugins OpenFX qui marchent dans un coin, tu as l'hôte qui marche d'un autre côté, et ils discutent entre eux. La première chose que dit en fait l'hôte, il lui dit, déjà, tu vas me calculer de tel pixel à tel pixel. Donc, il lui envoie le carré et lui dit, après, moi, j'ai géré un système de cache, je pense que tu as besoin de le recalculer ou pas le recalculer. Donc, si à un moment, un node a été recalculé alors qu'il n'aurait pas dû parce que ce n'était pas utile, c'est de la faute de Natron. Dans ces cas-là, par exemple, tu vois le coup du contrôle 1 qui fait le raccourci de ce truc-là et il me flush le cache. C'est une connerie, ça devrait pas. Donc ça, c'est des trucs, du coup, on reporte ce type de... C'est pas un bug, c'est dommage. Voilà, ça fait pas planter le soft, mais c'est dommage. Donc tu lui dis, je pense que c'est dommage, et puis ça, il va le corriger, en 10 minutes, ce sera fait, quoi. Donc, si tu veux, c'est... Voilà, c'est un soft, si tu veux, bah, qui au final est super stable. J'allais vous dire, ouais, vous inquiétez pas, vous verrez, ça a planté et tout. Bon, au final, ça a du bon d'avoir cramé ma caisse. Hein. Faut positiver, allez. J'ai plus de machine, mais il faut positiver. Donc c'est un soft, si vous voulez, qui est... Voilà, faut se rappeler que c'est un an de développement avec un mec tout seul ou quasiment tout seul, même si Fred donne un coup de main de temps en temps, mais sur le code base, c'est vraiment Alex qui est dessus. Donc, je vous invite à faire joujou avec, à reporter les bugs le plus possible. Si vous êtes sur des systèmes Windows, Mac, Linux et que tout le monde fait chacun dans son coin, c'est encore mieux. La preuve, hein, vous voyez, je découvre que sous Linux, c'est stable, c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à, il y a une mailing list, vaut mieux faire des reports de bugs en anglais de manière à ce que tout le monde y discute. On commence à être voilà, des gens qui font du compositing depuis plusieurs années, plus de 10, 15 ans, voire plus. On commence à être une bonne dizaine, une bonne quinzaine, donc voilà, on a des questions assez pointues. Hein. On essaye de tester des trucs un peu au fond, de dire « je pense qu'il manque ça, je pense qu'il manque ça ». On fait pas des listes de courses, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il est tout seul, il en a déjà, il développe déjà super vite. Donc, on essaye simplement de définir une liste de choses, de dire voilà, là par exemple, il me manque un radial blur pour faire des espèces de rayons de lumière qui va sortir. Voilà, je lui ai dit « ce serait bien ». Maintenant, je vais pas le tanner tous les trois jours pour lui dire « mon radial blur parce que je sais très bien que s'il l'a pas fait, c'est qu'il était en train de débugger plein de trucs. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de stabiliser au maximum déjà l'hôte. Voilà. Et en fait, tous les effets qui vont venir se rajouter, c'est des effets qui sont en fait des effets OpenFX. Donc, c'est du développement hors hôte. Voilà. Pour l'instant, le but du jeu, c'est d'avoir un hôte super stable sur lequel on peut s'appuyer pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui se l'approprient, qui fassent joujou avec et tout. Et le reste viendra de discussions, de bug reports, voilà, sachant que ils sont vraiment très, très, très ouverts à beaucoup d'idées. Nous, on les remercie, ils nous remercient aussi parce que on essaye de faire avancer le schmilblick, on passe beaucoup de temps à faire crasher Nitron, à perdre des trucs. Voilà, tous les projets que j'avais finis cette nuit, j'ai découvert un bug qui fait que quand on lui dit « va chercher ce truc-là », non pas par rapport à la racine de ton disque dur, mais par rapport au projet, j'ai trouvé un truc qui fait qu'il enlève un slash à tous les chemins. Et du coup, bah, quand on recharge le projet, il a paumé toutes les images. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de le reporter, mais demain soir, quand je rentre chez moi, je reporte le bug et voilà quoi. Donc, l'atelier de demain matin, bah, ce sera ce projet-là. Donc, je vais revenir aux questions, mais je vous le dis juste. Hein, voilà, un atelier sur Nitron de 10 heures. Je vous donnerai toutes les sources et puis on essaiera tous ensemble. Donc, venez si ça vous intéresse avec une version récente de Nitron. Et puis, on va essayer de faire joujou ensemble, d'improviser des trucs aussi parfois, parce que ça peut être rigolo, hein, voilà, selon les questions que vous aurez. Oui.
Moi, j'ai deux questions. Donc, je dis que le système de compositing plutôt pour de la 2D. Quand
ouais.
De maths, hein. Donc, ça a l'air super intéressant, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé un peu de ça.
Oui, je suis d'accord, ouais. je précise que c'est le seul auquel je crois depuis 20 ans. Quand on me demande est-ce qu'il y a une alternative open source pour le compositing vraiment pro, pendant quasiment 17-18 ans, j'ai répondu non. Là, maintenant, aujourd'hui, je réponds oui. Voilà. Des trucs comme Ramen, j'y ai jamais cru. Voilà, des trucs. Dès le début, j'y ai pas cru à ces trucs-là. Et j'ai malheureusement eu raison parce qu'ils sont tous morts et ils se sont arrêtés avant. C'est le premier auquel je crois. Donc, c'est le premier voilà, où je dis je passe du temps. J'essaye, de, voilà, un jour comme aujourd'hui, de faire des confs pour présenter un peu le projet aux gens. Et voilà. C'est. Donc, excuse-moi, oui, je reviens à ta question.
Oui, oui, non, mais c'est fou qu'il y ait qu'un seul gars pour tout ça. Enfin,
ouais.
Du coup, est-ce qu'il y a des boîtes de cailleurs pour le fond vert et tout ça?
Oui, il y a un cailleur intégré. Je ne l'ai pas montré là, mais il est là. Il y a un, tu vois. Il y a un Chroma Key, un Differscaler, il y a un truc qui s'appelle Total. Alors, il y a un truc qui s'appelle Total OFX, qui est en fait des plugins qui ont été développés par des gens qui travaillent dans les boîtes de prod. C'était une initiative bien avant Nitron, bien avant Ramen et tout, de dire OK, on va faire des plugins OpenFX open source, si tu veux. Il y a justement certaines versions qui sont livrées avec les Total OFX, qui sont des effets en plus. De plus en plus, on n'a pas besoin de les rajouter, si tu veux, parce que Alex recode en fait des effets, Alex et Fred recodent des effets en fait qui viennent remplacer ces trucs. L'architecture des plugins Total OFX est un petit peu vieillissante, donc ils ont un petit peu remis ça, un petit coup de refresh par-dessus, si tu veux. Et donc bientôt, on n'en aura plus besoin parce que voilà, le Total OFX, c'est un truc qui est frisé maintenant depuis quelques années, ça évolue plus des masses. Et donc voilà, ils essayent de reprendre, si tu veux, le standard OpenOFX qui a été tombé un peu en désuétude un peu au moment. Puis là, maintenant, tout le monde se réveille et tout le monde trouve que c'est super, sauf la Blender Foundation, c'est un petit peu dommage. Voilà, ils veulent pas l'intégrer. ils ont fait un post pour si vous êtes développeur, un post sur le blog de Neutron qui explique comment coder en fait un OpenFX de A à Z en prenant l'exemple de l'invert, si je me souviens bien, qui permet en fait voilà de dire on part de ce code là, vous pouvez choper le code et puis vous changez ça, vous avez fait un nouveau plugin OFX et vous pouvez le linker dedans quoi. Donc ça va prendre du temps, faut pas se le cacher. Hein, on va sûrement pester en se disant « Ah, il manque ça » et tout, mais voilà, c'est repenser pour ceux qui font du Blender à ce qu'était Blender 2.5 deux semaines après qu'ils aient mis la première bêta de Blender 2.5, on a tous râlé aussi. Hein. Et c'était il y a déjà quasiment 7-8 ans, si ma mémoire est bonne. Hein. Donc et puis maintenant, on n'y pense plus parce qu'on se dit oh, « c'est bon, il y a tout ce qu'on veut ». Mais voilà, c'est forcément quelque chose qui va être communautaire. Il va pas pouvoir continuer tout seul pour faire tout ce qu'on lui demande. Donc après le but, voilà, l'idée d'Alex, c'est de se dire que bah il y a plein de boîtes de prod qui sont fortement intéressées. Hein. Il a fait le tour de toutes les boîtes de prod, pas que de la France d'ailleurs. Hein. Quand il est allé à Vancouver, il y a plein de mecs qui sont venus le voir pour lui dire ah ouais, c'est vachement bien. On passe beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps, je pourrais dire plutôt, parfois à s'échanger des projets entre boîtes, parce que quand on bosse sur DFX pour un film, on n'est pas une boîte, on est plein de boîtes. Et parfois c'est les gens en fait qui vont de boîte en boîte. Et Flavio qui est là, qui est directeur technique, pourrait vous le dire, il passe la moitié de son temps à coder des plugins Python pour contourner des problèmes d'incompatibilité entre les softs, si ce n'est pas 80% de ton temps parfois, peut-être même. Donc si à un moment on arrive à se dire on développe finalement un logiciel qui est communautaire, qu'on peut utiliser partout en fait, et que du coup bah, se refiler un projet, c'est jamais que prendre un disque dur et se refiler le projet quoi. On a peut-être passé du temps à développer parce que chaque boîte de prod a son équipe de R&D généralement, et donc chaque équipe pourrait peut-être développer un petit bout de Neutron, un plugin OFX à droite à gauche et ce genre de choses. Et voilà, le but de Alex ces temps-ci et de Fred et de toute l'équipe qui gère ça à l'INRIA, il y a Stéphane Riba aussi qui s'occupe, qui est le community manager et qui essaye de faire vraiment toute une grosse communauté autour de ça. Ils font le tour des boîtes, ils discutent avec les gens et la mayonnaise commence à bien prendre, à vraiment bien prendre, parce que je pense que tout comme moi, on n'y croyait pas avant et que ça, on commence à y croire. De se dire, on peut commencer à avoir un truc sur lequel on va s'appuyer, qui est pérenne, qui va se développer et qui fera qu'on pourra, voilà, s'échanger des projets et avoir une espèce de développement communautaire autour de ça. Donc, si à un moment vous avez envie, ne serait-ce que de faire un petit tuto vidéo sur dire, bah tiens, j'ai envie de compositer machin et eux, ils mettent ça sur le site de Neutron. Il manque beaucoup de docs actuellement, voilà, donc. Comme toujours. Oui.
Je vais poser une question bête, mais est-ce qu'il y a un système de dons ?
Un système de ? Il n'y a pas de système de dons, à ma connaissance. Je ne crois pas que ce soit d'actualité pour maintenant, tant qu'Alex sera payé par tes impôts, c'est-à-dire l'INRIA, parce que c'est un truc public. Je pense que la question va peut-être se poser au moment où Alex terminera cette année, si tu veux, qu'il a encore au sein du programme Boost Your Code qui est organisé par l'INRIA. Là, forcément, il va falloir trouver peut-être un moyen de continuer à financer le développement. Je pense que dans cette année qui va venir, il y a justement le fait de devoir convaincre des boîtes, des trucs comme ça, de dire « ça peut continuer, mais voilà, c'est comme tout ». Voilà, on est dans un week-end où on parle du libre. Je pense que vous entendrez beaucoup de gens qui vous diront que le libre, tout le monde pense que c'est gratuit avant tout. Moi, je pense que c'est libre avant tout et que ça peut être gratuit, mais ça doit pas forcément être gratuit. Voilà. Un logiciel comme Blender, je l'utilise en prod, je fais de l'argent avec, donc j'ai je sais pas combien d'années de Blender Cloud d'avance avec l'argent que je leur ai donné, parce que maintenant ils doivent vendre des trucs, donc j'achète des années de Blender Cloud en fait, donc j'en ai jusqu'à je sais pas quelle année. Francisco Sidi, un jour il m'a dit ah bah ouais, il m'avait enlevé deux fois la somme et je lui ai dit non mais garde, c'est pas grave, il m'a dit ah bah je te rajoute deux ans et tout, voilà, donc j'y vais jamais, mais moi je sais que j'ai un accès pour plusieurs années. Donc oui, la question va se poser un moment de se dire comment on finance ce genre de truc, effectivement. Oui.
Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser des images qui ne soient pas RGB, par exemple des buffers de profondeur ou des buffers de...
Exactement, j'ai pas fait de point là-dessus parce que je voulais pas surcharger la machine et parce que les images EXR sont dans ma machine là et qu'elle est morte. Je vais mettre bientôt sur le site de Neutron un tuto que j'ai fait, par exemple, enfin que j'ai pas encore fait, mais j'ai fait un projet de test. Un cube dans Blender, une sphère exactement à la même place. Et je fais le compositing dans Neutron en fonction du ZDF pour réassembler les deux. Et je fais des comparaisons du ZDF pour faire de l'ambient occlusion dans le screen space. Donc c'est possible. Ouais. Oui. Quand tu quoi, pardon, j'ai pas entendu.
Le particule info, comme là.
Oui. Non, tu pourrais les récupérer s'il y a une passerelle qui est faite entre les deux. C'est comme les motion vectors, comme ce genre de choses, tu pourrais les récupérer aussi, ouais. Oui.
Par rapport aux deux versions du vaisseau, celles où toutes les images étaient ensemble et le côté qui passe, est-ce qu'il y a moyen de cristalliser en gros le cache, l'équivalent du multipass qui est bien configuré sous forme d'un nœud, quand je serai sur le risque de passer.
Alors pour l'instant ça ne l'est pas encore parce que si tu veux, le reader, tu vas sélectionner ta passe EXR et du coup il va te sortir que ta passe. Tu n'as pas l'équivalent du shuffle comme dans Nuke, mais ça va venir, ils vont bosser là d'ici le mois prochain sur un vrai support du multilayer. Donc tu pourras concaténer, rajouter des passes dans un seul pipe, tu vois, comme tu le fais dans Nuke, pour retraiter tous les trucs différemment. Voilà. Exactement, c'est-à-dire que tu vas avoir un nœud vide et tu vas venir, si tu veux, plugger tout un tas de trucs pour ajouter des passes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre conf après moi. Ouais. Voilà, je ne veux pas prendre le temps sur les gens. Mais on peut en discuter après, n'hésitez pas. D'accord ? Merci à vous en tout cas.